Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé, Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé. Ils sont 1300 médecins dans toute la France à courir pour prendre soin des patients. Ce sont les médecins de SOS Médecins, dont la place dans notre vie est toujours plus importante, et pourtant dans des conditions de travail assez difficiles et pas assez valorisées. Leur président Jean-Christophe Masseron est avec nous. La santé, c'est aussi le bien-être, et le groupe franco-français Guillaume Maricor, fondé il y a 50 ans, a décidé de nous faire rajeunir. Jean-Daniel Mondin, son fondateur à la tête de plus de 350 instituts de beauté, nous invite à essayer ces produits enfin efficaces. Enfin, deux personnalités complémentaires, Gaëtan Casanova, médecin de santé publique, et Étienne Mainviel, médecin et professeur à l'école polytechnique, ont créé un diplôme certifiant qui s'appelle Innovels pour former à l'innovation en santé. Check-up Santé, la seule émission qui innove, c'est parti. Jean-Christophe Masseron, bonjour.
Bonjour Fabien Guèze.
Alors vous êtes bien sûr médecin, généraliste, vous êtes installé à Chambéry. Merci d'ailleurs de vous être déplacé pour venir dans le studio. Et vous êtes depuis 3 ans, c'est bien ça, le président de SOS Médecins. SOS Médecins, ce sont des médecins généralistes, urgentistes, qui font donc des urgences médicales urgentes et non pas des urgences vitales, on est bien d'accord?
Oui, c'est vrai, les urgences vitales sont l'apanage plus du SAMU, et puis on ne fait pas non plus de suivi de malades dans la durée, on n'a pas de patientèle à nous, on ne s'occupe que des soins non programmés, c'est-à-dire les soins qui ne peuvent pas être différés.
Donc une certaine éthique, en fait.
Le but, c'est de pouvoir aider la population en l'absence de médecins traitants, ou lorsqu'il n'est pas disponible sur un problème de santé aigu, quel qu'il soit, et on est capable de faire de la visite, de la consultation ou autre chose. Si c'est autre chose, du conseil téléphonique, des choses comme ça.
C'est vrai que quand on pense à la pénurie de médecins et quand on pense au nombre de patients et que je vois seulement 1300 médecins et médecins, vous devez travailler comme des fous.
Oui, c'est vrai, on reçoit 7 millions d'appels par an, c'est pas anodin, le SAMU je crois en prend 30 millions, ça aide beaucoup le service public hospitalier, les urgences qui sont en difficulté, on le sait bien, et nos services permettent à la fois aux médecins traitants d'avoir un relais quand ils peuvent pas prendre en charge tous les patients en urgence, et puis les services d'urgence, ça les désengorge, donc c'est plutôt bénéfique pour tout le monde, y compris pour le patient.
Et SOS Médecin a presque 60 ans.
Oui.
A été fondé même avant le SAMU.
Oui, 1966. C'était une idée avant les SAMU, puisqu'il n'y avait pas de médecins pour aller chez les gens, les secourir, leur porter assistance. Et effectivement, c'était l'idée du docteur Marcel Lascar de pouvoir proposer ce service et de l'inventer de toutes pièces sur le principe de la mobilité. C'est historiquement, SOS, c'est de la visite à domicile, c'est ce qu'on essaye de garder.
Et qui était frappé par, justement, il est par un patient qui était décédé parce qu'il n'avait pas pu avoir accès à un médecin, alors que son plombier était arrivé dans le quart d'heure.
Tout à fait.
Donc, on avait dit 1300 médecins, pas mal d'associations. C'est une fédération, c'est ça, le SOS?
C'est une fédération d'associations, voilà. On est 64 antennes, 1300 médecins. Et puis, la fédération fait vivre les associations qui, elles, innovent, trouvent des solutions pour apporter toujours du soin pertinent auprès du malade. Et puis, nous, on discute avec les autorités de santé pour essayer de faire vivre ce métier qui est complémentaire du reste. Alors, du système.
Ce qu'on ne sait pas, c'est que vous ne faites pas que des visites à domicile.
Les visites sont en perte de vitesse depuis un certain nombre d'années. La visite est mal valorisée, mal reconnue sur le plan financier, donc forcément pose des problèmes d'attractivité. Il faut trouver des médecins pour la réaliser. Néanmoins, elle est précieuse, elle est indispensable et on doit la conserver. Mais on essaye de la resserrer sur le strict minimum. Les urgences, alors c'est les personnes fragiles, c'est les personnes âgées, c'est des missions de service public que l'on peut avoir, des collaborations avec différents services, mais c'est vrai que la visite est en difficulté. Donc on a la consultation à côté pour tous les patients qui peuvent se déplacer.
Consultation dans des cabinets de...
Dans des points fixes de consultation. On essaye de mailler le territoire pour...
Dédié au SOS Médecins.
Voilà, c'est des cabinets SOS pour tous les patients qui peuvent venir jusqu'à nous.
Pour ces fameux soins non
programmés. Ça permet d'optimiser le temps médical et quand c'est possible, ne pas déplacer un médecin.
C'est vrai que les médecins généralistes, non, surtout en Île-de-France, hein, font quasiment plus de visites.
En tout cas, dans les milieux urbains, c'est en voie de disparition. Alors, ils sont aussi très occupés par leurs malades au cabinet. Et ils sont très peu nombreux maintenant. La médecine générale, vous savez, n'attire plus les foules. Donc, il y a ce problème de démographie médicale et cette population qui vieillit, qui est atteinte de maladies chroniques de plus en plus et qu'il faut suivre dans la durée. Donc, les soins non programmés, effectivement, ont du mal à trouver leur place au milieu de tout ça.
Et du fait aussi des délais qui s'allongent. Hein,
donc, les délais s'allongent. Donc,
de pathologies
aiguës. Vous avez 15 jours, 3 semaines. Des fois pour accéder à votre médecin traitant, c'est ce que les gens rapportent. Et donc il faut effectivement des systèmes un peu intermédiaires, on va dire des systèmes qui complètent en fait l'offre de soins existante, quoi, pour pas que les gens finissent aux urgences, parce que le problème c'est que sinon ils terminent aux urgences.
Certains disent que la France est plus violente qu'il y a quelques années, et l'actualité le montre parfois. Et vous aussi vous êtes confronté à des violences aussi bien physiques que verbales.
Oui, alors a priori les chiffres de l'indélinquance en France le confirme malheureusement aussi.
Vous avez d'ailleurs été missionné par le gouvernement.
J'ai reçu une mission de la ministre Agnès Firmin-Le Bodo avec ma collègue Nathalie Nion, infirmière cadre de la PHP. On a travaillé pendant 4 mois sur le sujet des violences en santé, donc à la fois dans les établissements, mais aussi en milieu, en ambulatoire en fait, pour tout ce qui est versant libéral. Et donc on s'est aperçu effectivement, on le savait déjà, mais que les professionnels de santé sont très confrontés aux incivilités, aux menaces, aux insultes et parfois à l'agressivité physique. Et donc on a essayé de dégager des solutions, enfin des propositions pour prévenir ces phénomènes, essayer de mieux les appréhender et puis faire en sorte que ça se reproduise pas trop. Oui. Donc c'est un travail qui nous a bien occupé là sur le premier.
J'imagine. Vous parliez au début du manque d'attractivité. Qui provoque cette pénurie, on peut le comprendre en fait du fait d'une revalorisation quasiment inexistante, quoi.
Oui, alors c'est tout le problème de.
On parle des honoraires.
C'est tout le problème de la médecine libérale actuellement. Vous savez que les négociations conventionnelles ont échoué au début de l'année.
Et c'est une commission arbitrale qui a pris la place.
C'est un règlement arbitral qui, pour l'instant, en fait, c'est un statu quo. On n'a pas obtenu quoi que ce soit. Il s'agit de redonner 1,50€ par consultation ou par visite. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire aboutir la convention. Mais il y a un moment donné où les professionnels ne peuvent pas toujours faire plus avec les mêmes moyens. La santé à moyen constant, c'est compliqué. On a une population vieillissante, on a des besoins qui explosent, des professionnels qui sont peu nombreux, qui sont fatigués, et il y a un moment donné où il faut les encourager aussi sur le plan.
Mais c'est fou, on a l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Peut-on pas comprendre qu'un médecin qui bosse 60 heures par semaine ne soit pas rémunérer à son juste niveau, quoi.
Ouais, la question est combien coûte un soin et combien coûte la santé en France. Il faut déjà arbitrer ça. C'est quoi la consultation?
Peut-être qu'il faudrait responsabiliser certains patients, peut-être aussi.
Peut-être responsabiliser les patients. C'est sûr qu'il faut que nous, professionnels, on prenne aussi notre part et qu'on. Mais je crois que chacun le fait du mieux qu'il le peut. Mais en tout cas, on doit prendre des engagements pour que la population soit soignée au mieux. Donc il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et il faut malheureusement passer par une revalorisation pour encourager.
Et ben on l'espère. Vous avez un problème au niveau de la reconnaissance de vos centres d'appel.
Oui, ça c'est l'actualité du moment. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on le demande. SOS Médecin a inventé le service d'accès aux soins tel qu'il est en train d'être déployé aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, depuis très longtemps, on reçoit nos appels, on les qualifie et puis on dit, c'est une visite, c'est une consultation, c'est une téléconsultation. Aujourd'hui, on envoie le patient dans la régulation systématique par les centres 15 et par les SAS, les services d'accès aux soins. Et il n'y a pas de rémunération si l'appel arrive directement dans nos centres d'appel. Il n'y a pas de rémunération supplémentaire. Elle n'est fléchée que sur le service d'accès aux soins. C'est un problème pour nous, puisque ça fait deux poids, deux mesures. Vous avez un patient qui arrive avec un problème de santé. Selon son canal d'entrée dans le système, l'acte n'est pas valorisé de la même façon.
Oui, nous, c'est de 50 à 35 euros.
Voilà, de 35 à 50 euros. Donc là, il y a effectivement une impossibilité. Mais là, c'est un principe.
Et comment les choses évoluent?
Position de principe. Alors là, ça n'évolue pas. Nous, SOS Médecins, on a décidé en Assemblée Générale, il y a quelques jours, de se retirer au 1er juillet des services d'accès aux soins pour protester contre cet état de fait et essayer de faire en sorte que les choses bougent, et puis on va voir comment on peut négocier avec les autorités de santé une sortie par le haut de cette situation, parce que les SES n'ont aucune envie d'abandonner leurs confrères urgentistes, mais malheureusement, il faut toujours en passer par, de temps en temps, les épreuves de
juste force. Pour finir, en 10 secondes, c'est vrai que vous voyez beaucoup de monde, donc vous avez beaucoup de data.
Oui, c'est vrai.
Le moyen, un super moyen serait d'utiliser ces data.
C'est vrai qu'on
au service du patient d'ailleurs.
On a des données de santé en très grand nombre. On les utilise déjà. On les transmet tous les jours à Santé Publique France, qui peut faire de la surveillance épidémiologique très précieuse grâce à ça. Et donc on est en train d'améliorer notre entrepôt de données de santé pour pouvoir faire des travaux de recherche et exploiter ces données de façon plus fine encore. Donc oui, c'est très précieux pour nous.
Merci beaucoup Jean-Christophe Masson. Revenez surtout quand vous voulez. Vous
merci,
êtes le bienvenu.
Bien, merci.
On va à présent accueillir Jean-Daniel Mondin, président du groupe Kino Maricor.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Jean-Daniel Mondin, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes docteur en pharmacie, c'est important de le préciser, et vous dirigez le groupe Guino Maricor depuis une cinquantaine d'années, incroyable, et dont vous êtes surtout l'unique actionnaire. Comment arriver, à partir de votre départ, à créer 340 instituts de beauté?
Alors, et 340 instituts de beauté franchisés qui sont aujourd'hui maintenant 450 et 2500 instituts de beauté en France. Donc c'est un réseau de proximité. Alors comment ? Eh bien en faisant ce que les autres ne sont pas capables de faire. Parce que quand on fait pareil que les autres, bon, les clients vont chercher le moins cher pour la même qualité. Et nous nous sommes attachés depuis le début, et c'est l'ADN de notre société, à faire en sorte de ne pas pouvoir être concurrencés, de telle sorte que nos esthéticiennes ont des soins, des méthodes de soins, qui ont des résultats que les autres ne peuvent pas avoir.
À ce moment-là. Et donc vos produits de soins sont distribués dans 17 000 instituts
dans
75 pays,
75 pays
dans le monde. Ça, c'est extraordinaire, une réussite franco-française impressionnante.
Quand on fait des choses de qualité en France, on a une réputation telle que les gens viennent à nous plus facilement que si on était dans d'autres pays. Alors ça, je le dois pas à nous, je le dois à la France.
Alors, vous venez de mettre au point, c'est important, un soin qui permet de rajeunir la peau du visage. Il y a eu pas mal de pubs sur beaucoup de produits qui étaient censés rajeunir la peau. On a l'impression que, pour vous, c'est le Graal, la panacée.
Ah ben c'est-à-dire que je me suis fait plaisir parce que d'abord je vous l'ai pas dit mais je suis le fils d'un chirurgien esthétique qui faisait donc de la médecine esthétique et donc toutes sortes d'interventions vous connaissez et donc je me suis attaché à mettre au point ce soin. Alors ce soin agit au bout de 30 minutes et les personnes voient le résultat au bout de 30 minutes donc on ne peut pas tricher. Surtout qu'on dit aux clients...
Et surtout, on n'a pas besoin de faire des études cliniques, puisque les résultats sont assez rapides.
À la fin du soin. Et on dit même à nos clientes de prendre avec leur smartphone et des photos de leur front, sur le côté de leur patte doigt, et même du
cou.
Donc ce sont des résultats visibles.
Alors très rapidement, comment ça marche alors?
Alors comment ça marche? On utilise des techniques, je vais être un peu long, mais pour me faire comprendre...
Non, mais il faut être concis quand même.
On est concis. Oui. Alors, quand vous avez l'âge de... Quand vous avez 6 ans, vous avez 1 mètre carré de peau. Quand vous avez 20 ans, vous avez 3 mètres carrés de peau. Pendant cette période, la microcirculation cutanée se développe pour arriver à développer toute cette surface cutanée. Et puis à partir de l'âge de 20 ans, la microcirculation progressivement diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'épiderme, qu'est-ce que c'est que l'épiderme? C'est cette enveloppe élastique qui non seulement protège le corps de
les agressions
tout l'environnement extérieur, mais aussi qui supporte le tissu élastique de la peau. Et ces tissus élastiques de la peau, comme la microcirculation diminue, il diminue. Donc on refait de l'élasticité cutanée. Donc, cet épiderme qui a été sous-alimenté pendant des années et des années...
Et l'épiderme, c'est la partie superficielle de la peau, quand même.
La partie superficielle. D'accord. Oui, mais c'est elle qui porte la vraie élasticité de la peau.
D'accord.
Comme le cuir. Quand vous avez un vêtement en cuir jeune, il est élastique. Quand le cuir est âgé, il ne l'est plus.
Donc, en gros, votre produit qui pénètre la peau? Parce qu'on a
produit,
beaucoup parlé de produits
alors,
qui pénètrent pas la peau.
Le produit pénètre dans la peau et il y a des éléments biologiques qui stimulent les capteurs thermiques. Les capteurs thermiques envoie un message au cerveau par lequel il fait 40 degrés de température. Ce qui est faux, c'est uniquement une perception artificielle. Ouais. Voilà. Et le cerveau répond en disant « J'ouvre la circulation pour que le sang aille se refroidir vers l'extérieur. » Parce qu'à l'extérieur, il y a 20 degrés. Ouais. Et faussement à l'intérieur, 40 degrés. Donc, on a un flux sanguin qui arrive de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. Et la couche basale qui refait de l'épiderme se trouve irriguée. Et dans ces conditions, la peau est se régénérée. Retombe. Alors, c'est une technique. Mais c'est une première
vous dites que vous dites qu'il y a un effet donc immédiat, mais qui perdure, j'imagine.
Alors, il perdure plusieurs jours parce que les cellules régénératrices ont été réirriguées. Réirriguées par quoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que la peau ? C'est comme le cheveu, c'est de la kératine.
Justement, oui.
Voilà. Et la kératine est formée d'acides aminés. Où est-ce que la peau et le cheveu trouvent ces acides aminés ? Dans le sang.
Dans le sang, bien sûr.
Les vitamines pour arriver à tresser, synthétiser cette kératine.
Dans le sang aussi.
Se trouvent dans le sang. Les globules rouges se trouvent dans le sang.
Donc c'est le même principe qui pour votre produit qui favorise la repousse du cheveu.
Tout à fait.
Ouais.
Sauf que
une différence avec le minoxidil qui existe déjà.
Oui, alors le minoxidil c'est un médicament. Je voudrais pas faire la comparaison, mais si le laboratoire du minoxidil veut faire la comparaison avec le nôtre, avec les études cliniques que nous avons fait, ça ne me gêne absolument pas, puisque pour arriver à démontrer ce qui paraissait un peu irréaliste à beaucoup de scientifiques, nous avons fait des tests cliniques dans des laboratoires indépendants contrôlés par l'État. Alors, naturellement, bien des gens s'intéressent à nous, à commencer par les coiffeurs les plus avancés dans le soin de la peau, qui voient un développement d'activité, une réponse à trouver, notamment pour les hommes, qui perdent leurs cheveux de temps en temps dès l'âge de 25 ans.
Donc là aussi, un effet plutôt rapide.
L'effet, il est pour la repousse des cheveux sur 3 mois. D'accord. Et donc, nos tests sont faits sur 3 mois.
Alors, c'est étonnant, vous dites vous-même, c'est que les big pharma, les grandes entreprises n'arrivent pas à être aussi novatrices que vous. Très rapidement, alors, il nous reste 10 secondes.
Oui, les big pharma ont beaucoup de très bons chercheurs. Mm-hmm. Le problème, c'est que les patrons sont des gens qui savent lire le bilan de leur société, mais qui savent pas lire les formules et qui ne savent pas diriger les tests, les chercheurs. Et quand les chercheurs, même s'ils sont 1000, vont dans la mauvaise direction, ils ne trouvent jamais le trésor.
Eh bien, vraiment, bravo pour Jean-Daniel Mondain, bravo pour votre entreprise, bravo pour votre réussite. Et on va à présent, vous voulez dire juste un petit
mot ?
C'est un plaisir. On va à présent accueillir Gaëtan Casanova et Étienne Mainviel.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Gaëtan Casanova, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ancien président de l'ISNI, l'intersyndicale des internes. Vous avez passé une année à l'école polytechnique et vous êtes conseiller médical de la FNEAD, c'est la Fédération Nationale de l'Hospitalisation à Domicile. Étienne Mainviel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi médecin. Personne n'est parfait. Et vous êtes enseignant aussi à Polytechnique, directeur du Centre de Recherche en Gestion de toujours Polytechnique et directeur de recherche aussi au CNRS. Alors, vous lancez en fin d'année un programme qui s'appelle Innovens pour décrypter un petit peu les codes de la health tech et de l'IA en santé.
C'est exactement ça. Bon, ça part d'un principe qui est assez logique en santé actuellement, c'est de rapprocher le monde de l'ingénierie avec le monde de la santé. C'est un contexte actuellement où il y a énormément de développement, ChatGPT, etc. Et donc, Polytechnique développe pas mal d'actions dans la santé.
Il y a une chaire santé à Polytechnique ? Il y a une chaire santé ?
Alors, il y a un groupe Polytechnique Santé. D'accord. On était ce matin à l'Académie de médecine sur prévention. La prévention sera-t-elle algorithmique, par exemple ? Donc, on travaille sur tous les sujets. Il y a beaucoup de polytechniciens et de polytechniciennes dans la santé, d'ailleurs, au passage. Et donc, cette formation s'inscrit dans ce contexte. C'est une formation qui est très centrée sur l'innovation numérique, sur le digital, l'intelligence artificielle, évidemment, la réalité augmentée. mais aussi sur les formes de management du quotidien, parce qu'on travaille beaucoup avec Gaëtan, notamment sur les usages de ces outils, et ça pose toutes les questions qu'on connaît dans le système, c'est le travail d'équipe, attractivité, personnalisation, vision patient-centrique, etc. Donc c'est 8 modules, comme vous le dites, sur le numérique, mais aussi sur le management.
D'accord. Justement, vous, Gaëtan, on a l'impression que vous associez l'innovation en management et le management de l'innovation en santé.
Alors, tout à fait. Cette association, elle se fait naturellement. Pourquoi ? Parce que on voit bien que quand il y a de nouveaux outils qui apparaissent, surtout si c'est des outils très structurants, la manière dont on a de travailler, d'interagir entre nous, avec les patients, elle change réellement. Donc imaginez qu'on puisse innover sur le plan technologique sans penser la manière dont on travaille, évidemment, ce serait de la folie. Et c'est pour ça que, très naturellement, on en est arrivé à dire ces deux thématiques, le management de l'innovation et l'innovation dans le management, eh bien, elles doivent être nécessairement intriquées lorsqu'on forme les personnes, tout simplement.
Alors, comment ça se passe concrètement, donc, ces modules, alors ? Donc, ce sont des modules de formation, évidemment.
Alors, c'est la formation continue, c'est une journée et demie.
C'est une formation certifiée ?
Certifiée École Polytechnique. C'est à la Maison des Polytechniciens à Paris. C'est une alternance, en fait, d'interventions scientifiques. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, on essaye quand même d'être sur l'évidence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans des débats trop pointus d'un point de vue scientifique, qu'on vulgarise, mais on ne veut pas être sur des propos qu'on lance en l'air, surtout sur ces sujets. Donc, on rapporte à chaque fois des synthèses scientifiques et on a aussi des expériences professionnelles. On a des invités de marque sur chaque séminaire, chaque module. Et dernier point...
Ce sont des formations présentielles ? Ce sont des formations...
Présentielles.
D'accord.
Complètement présentielles.
D'accord.
Multidisciplinaire. L'idée, c'est à la fois des médecins, directeurs d'hôpitaux, start-upers. Je voudrais insister sur un dernier point, c'est qu'à côté, on fait un projet collectif. C'est-à-dire que les participants travaillent par groupe de 3, 4, tout se définira évidemment en cours de route.
Le trio dont vous parlez, oui.
Voilà, parce que l'idée, c'est toutes ces formations, c'est à quoi ça sert, au fond, quand on retourne après sur le terrain. Et on veut vraiment que ces projets servent à emmagasiner les connaissances et on dialogue toute l'équipe pédagogique, Gaëtan, moi et d'autres, avec les participants sur ces projets.
Alors, vous l'avez un petit peu dit, mais ça s'adresse donc à qui exactement ?
Ça s'adresse essentiellement à toutes les personnes qui ont vocation à être dans des situations où elles doivent innover, soit où elles doivent soutenir l'innovation d'autres personnes, ou tout simplement les personnes qui sont en situation de gérer des équipes. Donc, en réalité, pour être très clair, ça va... du médecin chef de service au directeur de l'innovation, au cadre de santé. L'idée réellement...
Un directeur d'hôpital.
Un directeur d'hôpital. L'idée, elle était simple.
C'était un entrepreneur aussi, oui.
Les entrepreneurs, évidemment. Ouais. Et dans notre comité d'orientation pédagogique, il y a des entrepreneurs. Parce que c'était impossible pour nous d'imaginer qu'on allait... De la même façon qu'on a dit, on ne va pas segmenter l'innovation et le management. Il est hors de question de segmenter en disant il n'y aura que des médecins ou ce sera que pour les médecins. Non, l'idée, c'était d'avoir une structuration qui reflète la réalité des enjeux de l'innovation et du management. Donc, on a essayé que ce diplôme soit exactement fondu à travers ce prisme-là.
Donc, je pourrais dire que je peux m'inscrire. Parce que c'est un de mes fantasmes de dire que j'ai fait Polytechnique...
Fabien, vous êtes le bienvenu, on vous accordera une place à part, il n'y a pas de problème, et vous pourriez être intervenant aussi, éventuellement.
Avec grand plaisir. Donc, en fait, cette formation, elle est transversale, c'est ça ?
Oui, je crois que c'est vraiment important à souligner. C'est un peu le propos du début, c'est-à-dire qu'on est à un moment qui c'est fantastique d'une certaine façon, mais il y a énormément d'innovations numériques dans notre vie quotidienne et en santé en particulier. C'est vraiment le moment où il faut faire du maillage. Donc l'école polytechnique, elle n'est pas la seule école d'ingénieurs, mais actuellement essaye de rentrer en dialogue avec tous les partenaires du système de santé. Et cette formation est le symbole de cette vision un peu de maillage où on peut rencontrer des ingénieurs, discuter avec eux, des professionnels de santé... Et raisonner, comme l'a dit Gaëtan, l'usage. C'est-à-dire, nous, notre préoccupation dans cette formation, c'est pas, encore une fois, de comprendre la méthode mathématique de l'algorithme, mais c'est de comprendre comment on l'utilise au quotidien.
Et vous avez un comité scientifique qui est polyvalent et qui est surtout prestigieux, quoi.
Oui, tout à fait. Ça a été... ça a été une des premières questions, évidemment l'orientation qu'on donnait, mais il y a aussi dire quel type de personnes on rassemble. Et ce comité d'orientation pédagogique, il y a des chefs d'entreprise, de très grandes entreprises qui ont investi et réussi dans les technologies. Il y a des dirigeants d'hôpitaux, de groupes de cliniques, il y a des chercheurs.
Donc c'est ça que je peux citer, il y a Ramsey, il y a Doctolib, il y a les médecins de la PHP, il y a Yann Bubien.
Tout à fait.
Le
CHU de Bordeaux.
Le CHU de Caen aussi.
Tout à fait. Et vous voyez que la composition elle-même, elle reflète cet esprit-là. Il n'y a pas de question de privé, de public ou de statut en particulier. Il y a un seul objectif, c'est d'être capable de soutenir cette innovation-là dans toutes ses dimensions et de la soutenir de façon efficace pour que les équipes puissent les approprier et qu'à la fin, ça serve aux patients. C'est aussi simple que ça comme logique.
Une conclusion très rapide.
Venez.
Alors justement, si vous voulez venir, donc il y a un contact. Ce contact, c'est Nahual, nahoul.arcat@polytechnique.eu. C'est le moyen, c'est le lien.
Point edu,
évidemment. C'est le moyen donc pour vous inscrire à cette formation qui démarre en décembre prochain.
Décembre prochain, exactement.
Merci beaucoup Étienne Mavienne. Merci beaucoup Gaëtan Casanova.
Merci.
C'est la fin
beaucoup.
De cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.